Alors, je suis avec Jérémy aujourd'hui, qui est au Japon depuis maintenant 2 mois et demi, bientôt 3 mois. On va discuter avec lui de son expérience ici au Japon. Il va nous raconter un petit peu comment il est venu ici, ce qu'il a fait en amont avant d'arriver au Japon quand il était en France, où il en est là maintenant, après 2 mois et demi, quel est le bilan. Mais d'abord, je vais lui demander qu'il se présente.
Alors, je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans à Paris dans l'administration et j'ai décidé de venir au Japon un an dans le cadre d'un PVT.
D'accord, et pourquoi le Japon ?
Parce que j'ai toujours eu une affinité pour ce pays-là, que ce soit pour sa gastronomie ou sa culture. Et puis j'ai vécu à Paris pendant un temps, il y a beaucoup d'influences là-bas.
Tu dirais que c'est Paris qui t'a finalement donné l'envie de concrétiser et d'aller visiter le Japon et de t'y installer ?
Oui, pour moi c'était la suite naturelle des choses.
Quel a été le visa que tu as utilisé toi pour venir ici ? Enfin, dès que tu... Avec un visa, bon le visa le plus simple c'est le visa touristique, mais il est limité à 3 mois. Dans le cadre de ton arrivée ici au Japon, quel a été le visa que tu as utilisé ? Qu'est-ce qui te permet de faire ?
Alors moi, ce que j'ai utilisé comme visa, c'est un visa assez commun, c'est le Working Holiday. Donc c'est un visa qu'on peut avoir jusqu'à 28 ans, à condition d'avoir un certain montant sur son compte en banque. Et donc ce visa permet de travailler au Japon.
Pour une période limitée ?
Pour une période d'1 an.
Éventuellement renouvelable, si toutefois vous trouvez... une occasion avec une entreprise, enfin après c'est, tout est possible, mais c'est vraiment le visa qui permet dès le départ aux gens de moins de 28 ans d'arriver et de s'installer, de travailler, et puis après bah, s'ils font leurs preuves, il y a possibilité d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux gens qui vont venir ici dans le cadre du PVT, du Working Holiday, ou même dans un autre cadre, mais qu'est-ce que tu leur conseillerais avant toute chose ?
Alors ce qui peut être intéressant de faire en amont, c'est de commencer... 3-4 mois à l'avance, la recherche d'emploi, en particulier sur Craigslist, où il y a pas mal d'offres. Qu'est-ce que je peux conseiller d'autre ? De venir au Japon avec quelques bases de japonais. L'idéal, ça serait d'avoir un JLPT3.
Qu'est-ce que c'est que le JLPT3 ?
C'est un test de japonais qu'on peut passer en France, à Paris par exemple, en juillet.
Donc le JLPT, c'est quand on apprend le japonais, c'est l'équivalent du TOEFL. Le TOEFL, c'est ce qui permet de valider son niveau d'anglais. Le JLPT, c'est ce qui permet aussi de valider son niveau de japonais. Ça va de 1 à 5.
Alors le JLPT1, c'est le japonais qui permet d'aller à l'université japonaise. Donc c'est le dernier niveau. Le JLPT5, c'est le niveau débutant. Le JLPT3, c'est intermédiaire. Donc si vous voulez arriver au Japon avec la possibilité de pouvoir travailler dans des entreprises, il faut au moins avoir le JLPT3.
D'accord, le JLPT3. Et si vous voulez avoir un minimum de conversation, c'est le JLPT5. Au niveau de la recherche de travail, est-ce que tu as quelques conseils à donner aux gens qui voudraient venir s'installer ici ?
Donc, si vous arrivez avec un working holiday, avec l'intention de travailler au Japon pendant 1 an, ce que je vous conseille, si vous avez des diplômes et que vous avez un niveau correct de japonais, je pense que vous pourrez trouver facilement du travail dans un bureau. Si vous n'avez pas de diplôme et que vous ne parlez pas japonais, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours travailler dans la restauration. Le Japon est un pays où on est en plein emploi, donc vous trouverez facilement du travail.
Donc toi, tu as trouvé du travail ici. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton travail et le salaire que tu gagnes ici et ce que tu fais concrètement au quotidien ?
Alors moi j'ai trouvé un travail dans la restauration, je suis barman dans un restaurant français à Kagurazaka. Je suis payé 1000 yens de l'heure, je suis en temps partiel en sachant que ce mois-ci on est en juillet, il y a la Matsuri qui arrive donc il y a beaucoup de travail. On va dire que sur le mois je vais faire environ 1300 euros.
Sachant que pour le logement à titre d'exemple, une share house avec tout compris, c'est-à-dire l'électricité, internet et tout ce qui vous permet de vivre dans une maison coûte à peu près entre 600 et 800 euros. Donc c'est sûr que c'est des espaces qui sont partagés. Vous avez votre chambre privée, mais après vous partagez le reste des espaces. Mais dans l'ensemble, moi pour y avoir habité pendant 3 mois, je trouve que c'est vraiment très correct. Donc relativement intéressant au niveau du prix en comparaison avec par exemple une ville comme Paris où le salaire va être à peu près équivalent, mais le logement va coûter les logements à 500-600 euros sont souvent terriblement petits et souvent pas très propres. Concernant le coût de la vie ici, Alors moi j'ai une théorie là-dessus, après je sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais pour moi la vie au Japon, et notamment sur la bouffe, pour moi c'est moitié moins cher qu'à Paris. J'ai été avec plusieurs personnes, dont des Français, dans des supermarchés de quartier, les petits combini, qui sont déjà supposés être chers, et honnêtement, le choix est grand, et on peut pour entre 6 et 8 euros en moyenne trouver à manger, enfin, donc ce qui est incomparable par rapport à Paris par exemple, où en dessous de 10 euros en général on mange de la nourriture de pas très bonne qualité. Je sais pas ce que toi Jérémy tu penses de ça, mais je trouve que dans le budget global, finalement, une ville comme Tokyo, qui est supposée être la ville, une des villes les plus chères au monde, pour moi une ville comme Tokyo est pas forcément, quand on connaît les bons plans et quand on a trouvé son logement, je pense que c'est pas une ville extrêmement chère. Jérémy, t'en penses quoi?
C'est vrai sans être vrai, parce que à Tokyo, le problème c'est que les appartements ne sont pas faits pour qu'on puisse cuisiner chez soi. Les cuisines sont très petites, on n'a pas beaucoup de place et on n'a peut-être pas forcément le temps. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à aller au restaurant. Alors oui, c'est beaucoup moins cher qu'à Paris, mais quand on mange au restaurant matin, midi et soir, à la fin du mois, ça commence à faire un sacré budget. Et je pense que finalement, ça revient plus cher que sur un mois à Paris.
Je parlais pas forcément du restaurant, je parlais surtout des petits convenience stores, les combini, les petits supermarchés de quartier qui permettent en fait de manger pour entre 6 et 8 euros. On arrive à manger et en comparaison avec Paris, je trouve que ça reste quand même à moitié moins cher.
Enfin, quand je parlais de restaurant, j'intégrais en fait tout ce qui est ce genre de lieu, combini, restaurant, supermarché. Finalement, je trouve que ça monte assez vite. En particulier, quand on souhaite se faire à manger soi-même, tout est beaucoup plus cher.
Jérémy, au niveau des activités que tu as fait à Tokyo, est-ce que tu aurais des choses qui t'ont vraiment énormément plu? Trois par exemple trois activités qui t'ont particulièrement plu et que tu recommanderais aux gens qui viendraient à Tokyo, soit pour vivre ou soit pour visiter.
Alors, j'ai pas le souvenir de trois activités mémorables que j'ai pu faire à Tokyo. Ce que je pourrais donner comme conseil aux gens, c'est juste de sortir, flâner et se laisser guider par ses envies. Je pense que c'est le meilleur moyen de découvrir une ville comme Tokyo. Peut-être donner quelques idées de quartier. J'aime beaucoup Kagurazaka.
Kagurazaka, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Alors, c'est un quartier qui est dans Shinjuku et il a la particularité en fait d'avoir...
Shinjuku, tu peux nous expliquer ce que c'est?
Shinjuku, ça fait partie d'un... Je crois qu'il y a 24 districts dans Tokyo, donc c'est un des districts qui se trouve dans Tokyo. Kagurazaka a la particularité d'être le quartier français de Tokyo. Donc il y a plein de petits restaurants, de petits marchés. C'est vraiment un mélange intéressant de la culture française et de la culture japonaise. Parce qu'on va aussi trouver pas mal de dames en kimono, des boutiques de thé, des boutiques shinto, des temples. C'est vraiment une fusion intéressante de ces deux cultures assez différentes.
Si tu devais donner en dehors de Tokyo, parce que je sais que tu as un petit peu visité en dehors de Tokyo, dans le reste du Japon, si tu devais citer un endroit qui t'a vraiment particulièrement plu et que tu recommanderais aux gens qui viennent visiter le Japon?
Alors, j'ai beaucoup aimé le Kyushu. C'est une région qui est située dans le sud du Japon. C'est une région qui m'a vraiment plu parce que je trouve que les gens sont particulièrement chaleureux, ouverts sur les autres. J'ai vraiment passé un bon moment là-bas, donc je vous conseille de visiter cette région.
Une ville en particulier?
Alors, j'ai beaucoup aimé Nagasaki parce que cette ville a une configuration assez différente des autres villes japonaises. Elle est vraiment nichée dans les montagnes, donc on n'a pas ces grands centres immenses. Tout est caché dans les montagnes, donc il y a plein de choses intéressantes à voir. Et du coup, c'est une ville qui a gardé pas mal de particularités, d'authenticité.
D'accord, bah c'est intéressant pour avoir été... Aussi à Nagasaki, j'ai aussi beaucoup aimé la ville, qui est une plus petite ville que le reste des villes du Japon que j'ai pu visiter. Et c'est vrai que, concernant Tokyo, j'ai à plusieurs reprises eu l'occasion d'écrire là-dessus, mais c'est vrai que Tokyo, ça reste quand même la capitale. Et pour moi, ma théorie, c'est que souvent dans les capitales, c'est pas du tout l'endroit où on va trouver les gens les plus ouverts, les plus communicatifs, les plus sympas. Dès qu'on sort en fait du Japon, pour moi le Tokyo n'est pas le Japon comme Paris n'est pas la France. Et dès qu'on sort de Tokyo, on se retrouve tout de suite dans une configuration où les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympathiques. Ils voient moins de touristes. Et là, pour avoir fait plusieurs randonnées dans les montagnes, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Donc vraiment, le conseil que je vous donnerais, si vous venez au Japon et à Tokyo surtout, dès que vous avez l'occasion, sortez de Tokyo et allez rencontrer les Japonais. Je sais pas ce que toi, Jérémy, tu en penses.
Oui, c'est vrai, hein. À Tokyo, les gens sont plus fermés, ils ont l'habitude de voir des touristes. C'est une ville où les gens travaillent beaucoup, on est stressé, mais bon, ça reste quand même un des endroits où il y a le plus de possibilités, d'opportunités. Hein. Comparé à d'autres villes du Japon, en province, où ça reste quand même assez fermé, même si les gens sont plus ouverts, ils sont en même temps très fermés. À Tokyo, on a l'habitude de voir des étrangers, donc on a l'habitude de travailler avec eux, de parler avec eux.
Et aussi, si vous maîtrisez peu le japonais, que vous venez ici dans le cadre du Working Holiday, que vous avez l'intention d'apprendre le japonais ici, Tokyo, ça reste quand même beaucoup plus simple, dans le sens où il y a quand même beaucoup de gens qui parlent anglais. Puis depuis quelques années, j'ai le sentiment, alors ça fait pas très longtemps que je visite le Japon, ça fait 3-4 ans, mais j'ai l'impression quand même que le Japon essaie de s'ouvrir un petit peu aux touristes et développe le tourisme de façon plus importante. Il y a 10 ans, 20 ans, c'était très difficile de trouver des panneaux en anglais. Maintenant, là, moi, j'étais au plein milieu des montagnes et les bus, les informations étaient écrites en anglais, les messages étaient dictés en anglais. Donc, je pense que le Japon reste quand même plus ouvert qu'avant et Tokyo est encore plus ouvert que le reste du Japon. Donc, si vous maîtrisez peu le japonais, je vous recommanderais de venir plutôt à Tokyo. Et de profiter des week-ends, par exemple, pour faire des escapades dans le reste du Japon à 1h30, 2h de train du centre de Tokyo. Vous trouvez des destinations qui sont particulièrement jolies à voir et qui sont en pleine nature. Alors, ça permet de se dépayser un petit peu. Une des destinations, moi, qui m'a beaucoup plu, si je devais en donner une, c'est Enoshima. J'ai beaucoup aimé Enoshima. C'est une ville à 1h30 de Tokyo et je trouve qu'elle a la particularité d'être intéressante à visiter pour la journée. Il y a une plage, donc si vous aimez la plage, c'est sympa. Il y a une montagne qu'on peut grimper qui n'est pas très haute sur l'île d'Enoshima. Et il y a un spa qui coûte 20-25 euros que vraiment je vous recommande parce que c'est pas un spa luxe comme on peut les connaître en France, mais c'est quasiment l'équivalent de ce qu'on a dans les spas luxe en France d'ailleurs. Mais je vous le conseille parce que pour 20 euros, vous allez passer un moment détente extraordinaire. Juste petit bémol, les spas au Japon, c'est tout nu. Quel est ton plat préféré? Qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture japonaise que tu préfères le plus et pourquoi?
Alors, ce que j'aime le plus au Japon, c'est pour le petit déjeuner... J'aime bien manger du riz avec du natto. Le natto, c'est des graines de soja qui ont fermenté. Donc, c'est un peu ragoûtant la première fois. Ça sent le fromage. Mais c'est comme tout. La première fois est toujours plus difficile. Les autres fois, on apprécie davantage. Et c'est vraiment très, très bon avec un peu d'œuf ou un assaisonnement. C'est très agréable le matin.
Voilà, Jérémy, est-ce que tu veux donner est-ce que tu as un dernier mot à donner avant qu'on finisse l'interview? Sur le Japon, sur ce que tu en penses, est-ce que tu as envie de dire quelque chose?
Alors, si vous avez envie de découvrir le Japon, n'hésitez pas à le faire, ne soyez pas craintif, allez-y, même si vous ne parlez pas vraiment japonais, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, ça ne peut être qu'enrichissant. Si vous y allez dans l'optique de travailler dans le cadre d'un working holiday ou autre, pareil. En revanche, faut pas avoir peur de travailler. Quand on travaille au Japon. On ne compte pas ses heures. Voilà, il y a un certain niveau d'exigence et ça, il faut bien l'intégrer. Donc oui, vous pourrez trouver du travail, mais si derrière, vous ne suivez pas, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment intégrer ça.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la question du travail, mais faut savoir qu'au Japon, les Japonais prennent le travail au sérieux. Les Français, alors on prend aussi le travail au sérieux, mais c'est différent. Le Japonais va prioriser le travail par rapport à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il se consacre à son travail. Il ne compte pas ses heures. Il passe des moments en dehors du travail avec ses responsables. Ils vont boire des coups à l'extérieur. Donc c'est vraiment... le travail reste au centre des activités d'un Japonais moyen et les loisirs passent en second. Donc faut pas avoir peur de travailler, c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis venu au Japon dans l'idée de ne pas travailler parce que je pense que pour moi c'est pas du tout adapté, moi je suis ingérable dans le cadre du travail Et je pense que j'aurais été un cauchemar pour un employeur japonais. Ou alors il m'aurait fait vivre un cauchemar. Jérémy, je sais que tu as commencé ton travail il n'y a pas très longtemps, donc on va te souhaiter bon courage pour la suite, en espérant que tout se passe bien dans ta nouvelle expérience professionnelle. Et on espère qu'on aura de tes nouvelles très vite sur ta vie au Japon, sur tes projets. Et on te souhaite bien du courage.